Seigneur, c'est notre prière tous ensemble ce matin. Nous te remercions pour ces moments passés dans la louange et l'adoration. Et nous te remercions pour cette miséricorde qui coule de la croix. Et elle coule pour nous, pour chacune de nos vies, chacune de nos âmes. Seigneur, merci pour cette relation établie avec nous. Et merci pour cette relation dans laquelle tu t'adresses régulièrement à nous. Merci pour le don des Saintes Écritures. Merci pour le don du Saint-Esprit. Nous te demandons, Seigneur, que ton Saint-Esprit, maintenant, nous aide à comprendre les Écritures, pour que nous puissions, Seigneur, t'entendre, te voir, comprendre ta pensée. Nous sommes là, Seigneur, et nous avons soif, en fait, de toi, parce que tu es notre Dieu, notre Père, et que nous voulons nous attacher à toi pour notre vie. Conduis-nous dans ces instants, Seigneur, et dirige-nous, nous te le demandons. Amen. Nous remercions le groupe de louanges pour ces instants et nous allons rester très fortement dans le thème de ce culte, puisque, comme vous le savez, nous sommes en train de discuter de la question des fardeaux, de la question des fardeaux que nous portons dans notre vie. Alors, nous allons lire un passage dans l'Évangile selon Jean, chapitre 21. Donc, c'est le dernier chapitre de l'Évangile de Jean, qu'on appelle aussi l'appendice de Jean. Et là, nous allons lire les versets 1 à 14. Donc l'Évangile selon Jean, chapitre 21, versets 1 à 14. Il est écrit, après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade, et voici de quelle manière il se montra. Simon, Pierre, Thomas appelé Didyme, Nathanaël de Cana, en Galilée, les fils de Zébédée et deux autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, je vais pêcher. Ils lui dirent, nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, enfants, n'avez-vous rien à manger? Ils lui répondirent, non. Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Ils le jetèrent donc et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car ils n'étaient éloignés de terre que d'environ 200 coudées. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, apportez des poissons que vous venez de prendre. Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 grands poissons. Et quoiqu'il y en eût tant, le filet ne se rompit point. Jésus leur dit, venez, mangez. Et aucun disciple n'osa lui demander, qui es-tu? Sachant que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donna. Il fit de même du poisson. C'était déjà la troisième fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Amen. La présence de Jésus au milieu de nos fardeaux. La présence de Jésus au milieu de nos fardeaux. Alors, la Bible nous montre que Jésus est apparu à plusieurs reprises après sa résurrection. On sait par exemple que Jésus est apparu le dimanche de Pâques à plusieurs reprises. Donc, le jour de la résurrection, Jésus a été vu à plusieurs reprises. Il va par exemple apparaître aux femmes, donc à Marie et Marie de Magdala, alors qu'elles sont venues au tombeau, ça on le sait. La Bible nous dit dans d'autres textes que Jésus, ce jour-là, le jour de la résurrection, est aussi apparu à Pierre. Jésus est aussi apparu à deux disciples, dont l'un s'appelait Cléopas, sur le chemin d'Emmaüs, donc le fameux texte du chemin d'Emmaüs. Et le jour de la résurrection, Jésus est aussi apparu aux 11, rappelez-vous, en l'absence de Thomas, alors que Thomas n'était pas présent. 8 jours après la résurrection, Jésus est encore apparu aux apôtres, cette fois-ci avec Thomas qui était présent. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là que Thomas va reconnaître que Jésus est réellement ressuscité et qu'il va dire cette phrase extraordinaire « Mon Seigneur et mon Dieu ». Plus tard, encore, en Galilée, Jésus va apparaître aux disciples alors qu'ils sont au bord du lac de Galilée. C'est le texte que nous venons de lire, c'est le texte de la pêche miraculeuse. Et donc le texte nous dit, vous venez de le lire, que c'était la 3e fois que Jésus apparaissait aux disciples. En fait, il faut lire ou il faut comprendre que c'est la 3e fois que Jésus apparaissait aux disciples rassemblés, réunis. Jésus était déjà apparu, effectivement, à Pierre individuellement, aux femmes individuellement, mais c'était la 3e fois qu'il arrivait alors que les disciples étaient tous rassemblés. Et on sait que Jésus apparaîtra encore au moins 2 fois après ce moment-là, et puis une dernière fois, il apparaîtra au moment de son ascension au mont des Oliviers. Les apparitions de Jésus avaient différents buts, différents objectifs. Un premier but des apparitions de Jésus après sa résurrection, c'était de confirmer aux disciples qu'il était réellement ressuscité, évidemment. Donc le premier but, c'est que Jésus puisse leur montrer qu'il est bel et bien ressuscité. Il voulait leur donner des preuves de sa résurrection. Le deuxième but de ces apparitions de Jésus après sa résurrection, c'est qu'il en a profité pour leur adresser certaines paroles et certaines instructions. Il nous est dit que, à ces apparitions-là, il a parlé à ses disciples des choses qui concernent le royaume de Dieu. Et notamment, c'est lors de ces rencontres de Jésus après la résurrection qu'il va leur expliquer la loi et les prophètes, leur expliquer l'accomplissement de toutes ces choses par sa mort. C'est là qu'il va leur dire qu'ils vont recevoir une puissance venant d'en haut. Et c'est là qu'il va leur dire aussi de ne pas partir pour attendre cette puissance venant d'en haut. Et puis, un dernier objectif de ces apparitions de Jésus après sa résurrection, c'est d'encourager les disciples. Ces apparitions de Jésus avaient pour but de donner aux disciples un puissant encouragement. C'est Jésus qui apparaît pour les encourager et pour leur dire de façon concrète et de façon visible, « Je serai vraiment avec vous jusqu'à la fin du monde. » C'est vrai que je vais partir, c'est vrai que je vais m'en aller, c'est vrai que je vais retourner au ciel, mais je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Là, maintenant, vous me voyez, et je peux apparaître face à vous, je peux apparaître alors que vous êtes dans des rassemblements, que vous êtes les uns avec les autres, mais plus tard, vous ne me verrez plus, mais ça ne change rien parce que je serai réellement avec vous. Quand je serai monté auprès de mon Père, vous ne me verrez plus, mais soyez rassurés du fait que je suis bien là avec vous, je suis bien là au milieu de vous. Jésus voulait encourager ses disciples de sa présence et leur donner cet encouragement de se dire, bien plus tard après, nous pouvons être sûrs qu'il est au milieu de nous. C'est comme si Jésus leur disait, au travers de ces apparitions-là, alors que vous serez rassemblés les uns avec les autres, après mon départ, je serai au milieu de vous. C'est comme s'il leur disait, alors que vous serez en train de vivre votre vie, de marcher sur le chemin de votre vie, je serai avec vous. Les 2 disciples d'Emmaüs, ils marchaient sur le chemin, ils marchaient, mais Jésus, à un moment donné, a cheminé avec eux. C'est comme s'il leur disait, plus tard, ce sera la même chose, vous cheminerez et je serai là, en train de cheminer avec vous, sauf que vous ne me verrez pas. Frères et sœurs, nous ne sommes pas seuls sur le chemin de notre vie. Et nous ne sommes pas seuls face à nos fardeaux parce que Jésus nous a promis sa présence, il a promis d'être là. Et comme nous l'avons entendu dans la présidence, il ne reniera jamais sa promesse d'être avec ses disciples. Et il n'abandonnera jamais ceux qui lui appartiennent. C'est marquant de voir, et vous l'avez certainement remarqué, que Jésus n'est pas apparu à des non-croyants. Nous n'avons pas dans la Bible d'exemple de Jésus qui apparaît à ceux qui ne croyaient pas après sa résurrection. Jésus est apparu uniquement à ses disciples, uniquement aux siens. Pour leur dire, oui, avec vous je serai, avec vous je marcherai, Jésus est apparu aux siens, il voulait leur donner ce puissant encouragement. Nous ne le voyons pas, mais Jésus est avec nous. Nous ne sommes pas seuls, nous ne sommes pas abandonnés, nous ne sommes pas orphelins. Il chemine avec nous, alors que nous sommes là, pas forcément conscients, alors que nous sommes pris dans cette réalité, et justement, alors que nous sommes aveuglés. Jésus est avec nous. Dans notre lit de maladie, Jésus est avec nous. Dans notre lieu de travail, parfois, qui peut être un peu compliqué, Jésus est avec nous. Dans nos examens, Jésus est avec nous. Et de façon encore plus spéciale, encore plus particulière, Jésus est avec nous dans nos rassemblements. À chaque fois que nous nous rassemblons en son nom, Jésus est avec nous. Jésus est au milieu de nos cultes. Les disciples étaient rassemblés dans une rencontre entre eux et Jésus vient se présenter. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Nous sommes rassemblés ensemble et Jésus vient se présenter. Nous ne le voyons pas, mais il est présent au milieu de nous. Jésus est présent dans nos réunions de prière. Il est là, alors que nous sommes là, assis sur nos chaises, dans un lieu complètement insignifiant. Jésus est présent dans nos entretiens fraternels, dans parfois même dans nos repas que nous faisons quand nous nous invitons les uns les autres et que nous commençons à discuter du Seigneur. Jésus est là au milieu de nous et il est à côté de nous. Jésus est là quand l'équipe d'évangélisation se rassemble pour discuter de comment est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va faire. Jésus est là. Jésus est là au milieu de son peuple et à chaque fois, comme dit l'Écriture, c'est là qu'il envoie sa bénédiction, la vie pour l'éternité. Jésus est présent au milieu de nous. Et on a ce chant qu'on chante souvent, « Un jour dans tes parvis vaut mieux que mille ailleurs. » Et il y a cette parole, « Jésus est parmi nous, l'un prie et l'autre pleure. Son regard est si doux, sa joie remplit nos cœurs. » Son regard est si doux. En fait, Jésus veut leur donner l'encouragement de ce que son regard si doux se pose sur eux. Et dans ce texte de Jean 21 en particulier, les disciples sont dans une situation qu'on peut considérer comme étant un fameux fardeau. Ils sont là, pris dans leurs difficultés, dans le tunnel de leurs difficultés. Et la difficulté, c'est « nous n'avons pas de poisson ». Nous n'arrivons pas à avoir le poisson dont nous avons besoin. Et ils sont concentrés là-dessus. Ça ne marche pas. Il y a un truc qui ne marche pas devant moi. Il y a un truc qui ne fonctionne pas. Mais ils ne le savent pas. Mais Jésus a le regard posé sur eux. Ils sont en train de s'occuper de leur fardeau. Ils sont en train d'essayer de régler une situation compliquée. Mais Jésus est en train de les regarder. Nous ne le savons pas. Mais alors que nous sommes en train de nous battre avec nos fardeaux, Jésus nous regarde. Nous ne le savons pas, mais alors que nous sommes en train de pleurer face à nos factures et de dire « mais par laquelle je vais commencer, qu'est-ce que je vais payer, comment ça va marcher avec ces factures ?» Jésus est en train de nous regarder. Nous ne le savons pas, mais alors que nous sommes en train de pleurer peut-être de notre situation de famille compliquée, n'est-ce pas, qui peut être tellement casse-tête, nous ne le savons pas, mais Jésus est en train de nous regarder. Et même, lorsque nous sommes face à des choses qui sont au fond de nos cœurs et que les autres ne peuvent pas voir, que les autres ne peuvent pas entendre, que les autres ne peuvent pas reconnaître, Jésus est là en train de nous regarder. Lorsque rien ne marche et lorsque nous sommes face à des tristesses enfouies tout au fond de nous, nous pouvons savoir que Jésus est là en train de nous regarder. La Bible dit « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. » L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve celui qui est dans l'abattement. Il est près de nous, il est proche de nos cœurs brisés, il est proche de nos cœurs qui se posent des questions en boucle, qui ne savent pas quoi, qui désespèrent. Jésus est proche, Jésus nous entend, Jésus nous voit. Vous vous rappelez dans la Genèse de ce texte que l'on connaît où Agar, qui est donc la servante de Sarah, à un moment donné, va être maltraitée par Sarah et va à un moment donné s'enfuir de chez sa maîtresse. Et à un moment donné, il nous est dit que dans une source, près dans le désert, il y a une source, et l'ange de l'Éternel vient rencontrer Agar alors qu'elle est triste. Hein, parce que finalement, pauvre femme, elle s'est fait avoir dans l'histoire. En fait, on lui a dit de faire un enfant et puis finalement, voilà. Donc elle s'est retrouvée mal prise. Et donc elle est dans l'affliction. Et là, l'ange de l'Éternel vient alors qu'elle souffre, et il lui dit « Ne t'inquiète pas, tu vas avoir un enfant, il sera compliqué, mais tu auras une grande descendance. » Et la Bible nous dit que l'ange lui dit que l'Éternel a entendu ton affliction, l'Éternel a entendu ta souffrance. Et là, Agar va appeler Dieu d'une certaine façon, elle va appeler Dieu « Atta El Roi ».« Atta El Roi », le Dieu qui me voit. Il est le Dieu qui me voit. Elle se rend compte que Dieu a vu sa souffrance. Elle se rend compte que Dieu a vu dans quel état elle était. Et en fait, on pourrait aussi traduire le Dieu de vision. C'est-à-dire, on pourrait traduire, c'est le Dieu qui me voit et que je peux voir. Ou en d'autres termes, j'ai vu le Dieu qui me voit. Elle a eu la grâce, l'occasion de voir le Dieu qui avait vu sa souffrance, qui avait vu son affliction. Et c'est fantastique, n'est-ce pas, de savoir que le Dieu que je prie, c'est le Dieu qui me voit. Alors quand on dit qu'il me voit, ce n'est pas juste qu'il m'observe, qu'il me regarde, parce que je suis tellement beau comme David Collet. Non. C'est qu'il voit ma souffrance, c'est qu'il voit mon affliction, c'est qu'il voit mes questions, c'est qu'il voit ma situation. Et nous pouvons lui dire, justement, par rapport à cette fidélité dont on nous a parlé, « Seigneur, merci parce que tu me vois. » Alors nous ne le voyons pas, toujours. Parfois, nous pouvons le voir, mais il est celui qui nous voit. Il nous regarde et il voit notre affliction, notre détresse, notre fardeau. Et vous savez aussi que c'est, comme Gino le disait dans sa prière tout à l'heure, c'est aussi ce que l'Éternel a dit au peuple d'Israël avant d'intervenir, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. J'ai vu, j'ai entendu. Dieu nous voit, Dieu nous entend. Dieu nous regarde et Dieu entend ce que nous vivons et là où nous en sommes. Nous pouvons nous encourager. Dieu me voit. Est-ce qu'on peut s'arrêter quelques secondes et être joyeux dans notre cœur ? Dieu me voit. Il sait où j'en suis et il sait ce que je vis. Alors Dieu me voit, c'est fantastique, mais il ne s'arrête pas là. Sinon, on pourrait rajouter, ça me fait une belle jambe. Tu me vois et bon, voilà. Jésus est en train de regarder les disciples qui peinent. Mais à un moment donné, il va intervenir et il va leur dire, « Enfant, n'avez-vous rien à manger ? » Ils lui répondirent non. Donc Jésus les regarde de loin, mais à un moment donné, il leur montre qu'il s'intéresse à leur fardeau. « Qu'est-ce qui se passe, mon petit ? Qu'est-ce qui se passe, mes enfants ? Vous n'avez donc rien à manger ? » Il leur demande ce qu'il en est. Il s'intéresse à leur fardeau. Et parfois, on peut avoir des situations dans lesquelles on vit des fardeaux qui n'intéressent personne autour de nous. Donc voilà, parce que les gens ne savent pas ou parce que les gens oublient, hein, les gens vivent leur vie. Eh bien, Dieu n'est pas de ceux qui oublient nos fardeaux. Il les connaît, il s'y intéresse et il pose des gestes pour venir vers nous. Dieu, on a cette parole, vous n'avez rien à manger, c'est un peu comme si Dieu venait nous dire, alors c'est toujours aussi compliqué ta santé, hein, c'est toujours aussi compliqué. Je m'intéresse à ta santé. C'est toujours aussi compliqué avec tes enfants. C'est toujours compliqué avec ton travail. C'est toujours aussi lourd, aussi fatigant ton travail. Ton patron est toujours aussi compliqué. Il s'intéresse. Il sait de quoi il retourne et il s'intéresse à nous. Dieu s'intéresse à nous. Il s'adresse à nos différents fardeaux, si bien, comme nous le voyons dans le texte, qu'à un moment donné, il va même intervenir. Et Jésus va leur donner des instructions très précises pour qu'ils puissent savoir ce qu'ils devaient faire pour régler leurs soucis, pour qu'ils puissent savoir ce qu'ils devaient faire face à cette situation. Jésus s'intéresse à nous et il nous donne des instructions par rapport à nos fardeaux. Alors quand on dit que Dieu nous donne des instructions par rapport à nos fardeaux, premièrement, nous devons savoir qu'il y a tout un ensemble de fardeaux pour lesquels la Bible s'exprime très clairement sur ce que nous devons faire. Très souvent. Savez-vous que au minimum 50 à 60%, c'est un chiffre comme ça, des domaines ou des situations de nos vies sont réglés par la parole de Dieu. Parfois, quand on cherche bien, on se rend compte qu'en toute situation, on peut trouver des versets qui nous instruisent. Alors le verset ne va pas dire « tu iras faire ton entretien chez Auto 5 » et pas… Non. Mais le verset, la parole de Dieu, nous aide à comprendre concrètement qu'est-ce que nous devons faire. Et donc, quand Jésus s'intéresse à nous, c'est aussi pour nous donner des instructions pour que nous sachions ce que nous devons faire, comme il l'a fait dans ce texte. Et la parole nous donne des instructions que nous devons chérir dans nos cœurs pour faire face à nos fardeaux. On en connaît plein. N'attachez pas votre cœur à l'argent. Ne rendez pas le mal pour le mal. Honorez vos parents. Mettez à part un jour pour le Seigneur. Priez pour les autorités, recherchez la paix. Tant d'instructions que Dieu nous donne dans sa parole et qui sont de nature à être des solutions dans les situations que nous vivons. Elles sont utiles pour notre vie et elles peuvent nous permettre de régler certains fardeaux auxquels nous faisons face. Le problème, c'est que très souvent, nous ne faisons pas confiance à ce que Jésus nous dit ou de ce que Jésus a à dire sur nos fardeaux. La Bible nous parle de cette tendance humaine, et nous avons tous cette tendance humaine, hein, tous, cette tendance humaine que nous avons à rejeter les paroles de Dieu. Dans le psaume 107, verset 11, on nous parle du peuple d'Israël, et il est dit « Parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu, parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. » Parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. Ça veut dire que parfois le Très-Haut nous donne des conseils que nous méprisons, que nous rejetons, dont nous ne faisons aucun cas. En d'autres termes, on pourrait dire, Dieu s'intéresse à nos fardeaux. Mais est-ce que nous laissons Dieu s'intéresser à nos fardeaux? Est-ce que nous laissons Dieu prendre en charge nos fardeaux? Est-ce que nous laissons Dieu avoir quelque chose à dire sur nos fardeaux? Dans le texte qu'on a lu, on peut imaginer ce qui se serait passé si les disciples avaient répondu à ce monsieur qui leur demande « N'avez-vous rien pris ?» s'il leur avait répondu « C'est pas tes affaires, occupe-toi de tes oignons. » Pour rappel, ils ne savent pas que c'est Jésus. Au moment où il leur donne ce conseil d'aller mettre leur filet à un endroit précis, ils ne savent pas que c'est Jésus. Ils pensent que c'est juste quelqu'un qui est là, en train de leur donner un conseil. Qu'est-ce qui se serait passé s'il leur avait répondu « T'occupe pas, c'est pas tes oignons, laisse-nous faire ce qu'on a à faire. » Dieu s'intéresse à nos fardeaux, mais très souvent, il passe par des gens autour de nous pour nous aider par rapport à nos fardeaux. Dieu ne descend pas forcément toujours de son ciel de gloire pour venir nous aider. Il envoie des gens autour de nous pour nous parler, pour nous instruire, pour nous rencontrer. Et parfois, justement, nous ne profitons pas de la grâce que nous pouvons avoir en écoutant les gens qui peuvent avoir des choses à nous dire de sa part. Vous connaissez cette histoire, on l'a déjà racontée 100 000 fois. Elle était aussi dans les programmes avant. Cette fameuse histoire d'une inondation avec l'eau qui couvrait le rez-de-chaussée d'une maison. Et à un moment donné, il y a une barque qui passe. Et donc, les sauveteurs disent à l'homme, « On peut vous aider ?» Et l'homme répond, « Non, Dieu me sauvera. » Et puis, l'eau continue à monter, elle monte à un étage, il y a une seconde barque qui passe. Et les gens qui disent, « On peut vous aider, monsieur ?»« Non, Dieu me sauvera. » Et puis finalement, l'eau arrive jusqu'au toit et donc il se retrouve à devoir monter sur le toit. Un hélicoptère arrive et l'hélicoptère déroule une échelle pour que le monsieur puisse s'accrocher et monter. Et il lui répond, « Non, Dieu me sauvera. » Et alors arrivé au ciel, il dit à Dieu, « Mais pourquoi est-ce que tu ne m'as pas sauvé ?» Et alors Dieu lui répond, « Je t'ai envoyé deux barques et un hélicoptère. Que voulais-tu que je fasse de plus ?» Faisons attention parce que par rapport à nos fardeaux, Dieu très souvent ouvre des portes et des occasions pour que nous ayons des instructions, pour que nous ayons des réponses. mais nous ne faisons pas forcément l'effort de tenir compte de ces instructions qui nous sont données. Et on doit vraiment, en fait, dans notre vie chrétienne, on doit vraiment grandir en se rendant compte que Dieu met autour de nous des ressources qui nous permettent de faire face à nos fardeaux, aux situations qui sont devant nous. Dieu peut envoyer une personne qui s'intéresse à nous et qui peut vraiment nous aider. Une personne qui est passée par la même situation que nous, par exemple, et qui peut nous donner un bon conseil. Un aîné dans la foi. Une personne autour de nous. Et parfois, nous n'écoutons pas ces gens autour de nous qui ont des conseils à nous donner. Vous savez, dans le livre des Proverbes, le nombre de fois où il est question des conseils, de l'importance d'écouter les conseils. Il est dit à plusieurs reprises aux enfants d'écouter les conseils de leurs parents. Dans notre génération, il faudrait peut-être le répéter un peu plus fort. C'est écrit plein de fois, « Mon fils, écoute l'instruction de ton père, ne rejette pas l'enseignement de ta mère. » C'est dit à plein de reprises. Dieu nous parle au travers des gens autour de nous, mais bien plus dans plein d'autres endroits de la vie, de la Bible, Dieu nous parle des façons avec lesquelles il peut nous parler. Par exemple, alors ça c'est un truc, c'est à mettre à la poubelle, il n'y a plus jamais personne qui s'intéresse à ça aujourd'hui, mais il est écrit, noir sur blanc, dans la Bible, que les femmes âgées doivent transmettre leurs connaissances aux femmes plus jeunes pour les aider à faire face aux choses de la vie. Alors je vous poserai la question, aujourd'hui, est-ce que les femmes plus jeunes accepteraient le conseil des femmes âgées ? Compliqué. Aujourd'hui, si vous allez dire à une fille de 22 ans, « Allez, viens, il y a une sœur de l'église qui a 55 ans qui va donner des conseils. » Dieu passe par les humains autour de nous pour nous parler. Dieu passe par les humains autour de nous pour nous instruire. Ils ne savaient pas que c'était Jésus, mais ils ont écouté le conseil qui leur était donné. Parfois, nous recevons des personnes autour de nous qui ont un apport, qui ont des dons aussi, qui ont des capacités, et nous n'écoutons pas. Alors, rappel, pour ceux qui étaient là la dernière fois, rappelons-nous encore une fois de la situation de Moïse. Lorsqu'il était débordé par le nombre de gens qui venaient vers lui constamment et que Jéthro, son beau-père, vient lui dire « Voici ce que tu dois faire. » Savez-vous que Jéthro ne connaît pas le Dieu d'Israël ? Jéthro est païen plus que païen, on ne sait pas être plus païen que ça. Il est même serviteur des idoles. Mais Moïse écoute le conseil de Jéthro et il y a une solution là-dedans. Donc en fait, Dieu utilise Jéthro pour donner à Moïse une solution à son fardeau. Nous avons tout intérêt à avoir le discernement de voir quelles sont les différentes manières par lesquelles Dieu nous parle. Il est écrit qu'il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ce n'est pas toujours le même canal, ça ne vient pas toujours du ciel directement. Il envoie sa parole autour de nous. Alors, on a cette tendance, évidemment, soit à mépriser les gens qui nous donnent des conseils, soit à mépriser les conseils qu'on nous donne. Alors, vous connaissez, par exemple, le texte de Naaman, le lépreux, qui est malade, comme pas possible. Alors, Élisée, l'homme de Dieu, lui dit, « Va et lave-toi sept fois dans le Jourdain, ta chair deviendra saine et tu seras pur. » Et il répond, « Qu'est-ce que c'est que ça pour une histoire ? Moi, je pensais que l'homme de Dieu allait se présenter à moi, qu'il allait invoquer l'Éternel, qu'il allait agiter sa main et que je serais guéri. » Eh bien non, Dieu passe par un autre moyen. Et donc, nous avons tout intérêt à être à l'écoute des différentes manières par lesquelles Dieu nous parle. De nous rendre compte que parfois, Dieu nous demande des choses ou nous dit des choses qui ne semblent pas très logiques. Très souvent, nous acceptons les pensées, les conseils, même bibliques, qui rentrent dans le carcan de notre tête. Tant que ça reste logique pour moi, alors je le fais. Mais une fois que ça sort de ma logique, que ça sort de ma compréhension, alors je n'en veux pas. Dieu nous appelle à être attentifs. Ils ne savaient pas que c'était Jésus. Mais ils ont fait le pas et ils ont pris une quantité incroyable de poissons. Et c'est seulement là qu'ils se sont rendus compte que c'était Jésus. C'est un texte qui a beaucoup complexé notre frère Damien parce que lui, il n'en a jamais pris autant. Il en prend des gros, mais pas 153 en même temps. On pourra t'acheter un filet si tu veux. Pas moi, hein. C'est pas moi qui vais payer, c'est eux qui vont payer ton filet. Dieu voit. Et Dieu nous donne de quoi agir. Alors, le texte que nous avons lu, en fait, contient un sens symbolique qui ne peut pas nous échapper. C'est qu'en fait, au début de l'évangile de Luc notamment, en fait, nous avons un texte où il y a déjà un épisode comme celui-là, d'une pêche miraculeuse. Et rappelez-vous, c'est le fameux texte où Pierre a encore travaillé toute la nuit et il n'a rien pris. Et Jésus lui dit « Avance en pleine eau ». Et Pierre dit cette fameuse parole qu'on connaît aussi, « Sur ta parole, je jetterai le filet ». Donc ça, c'était un texte au tout début de la vie du parcours entre Jésus et Pierre. Et c'est à la fin de cet épisode-là que Jésus va dire à Pierre « Désormais, tu seras pêcheur d'hommes ». Et donc, en fait, cet épisode de Jean 21, si vous voulez, c'est comme un rappel à Pierre de ce premier épisode. C'est comme un rappel à Pierre de sa mission d'être un pêcheur d'hommes. En fait, le texte ne concerne pas uniquement le fait des poissons. Le texte, c'est un message adressé à Pierre pour lui dire, malgré ce qui s'est passé, malgré ton péché, je te réhabilite dans ta fonction d'être un pêcheur d'hommes. Et bien plus, le passage veut dire, en fait, si tu suis mes instructions, mais tu vas voir que tu vas gagner beaucoup d'âmes pour le Seigneur. C'est ce qui va se passer dans Actes. Il y a beaucoup de gens qui vont se convertir par la prédication de Paul. Donc derrière cette scène-là, il y avait un message de Dieu, un message de Jésus à Pierre. Et on pourrait dire que c'est aussi le cas dans beaucoup de nos vies et dans beaucoup de nos fardeaux. C'est que Dieu voit plus loin que nos fardeaux. Nous voyons juste une situation face à nous comme ça, mais Dieu voit plus loin et Dieu veut, au travers de ses fardeaux, faire des choses plus grandes. Il veut nous parler et il veut nous montrer des choses qui sont beaucoup plus grandes. Et c'est quelque chose aussi qui doit nous encourager. C'est que Dieu voit plus loin que mon fardeau. Dieu voit plus loin que ma situation et Dieu sait ce qu'il peut faire avec mon fardeau et avec ma situation. Marie avait un gros fardeau. Elle avait un gros souci. Elle était enceinte. Alors qu'elle n'était pas mariée, et elle avait le nez pris dans son fardeau. Et elle se disait, mais c'est qu'est-ce que je vais faire? Comment ça va se passer? Joseph était dans tous ses états, mais Dieu avait un plan pour cette situation. Dieu voyait plus loin, et Dieu avait prévu qu'elle soit la mère qui porterait le Fils de Dieu. Marthe et Marie, les autres, donc c'est pas la même. Marthe et Marie avaient aussi un fameux fardeau, c'est que leur frère était malade et puis qu'il est mort. Donc c'était quand même pas rien. Elles avaient tout d'abord l'inquiétude pour la santé de Lazare, et ensuite elles avaient la tristesse de sa mort. Et Jésus va dire à plusieurs reprises, il va dire par exemple, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Donc, ils voyaient leur situation, mais Jésus voyait de quelle façon Dieu se glorifierait dans cette situation. Il voyait leur réalité actuel, mais Dieu voyait beaucoup plus loin. Et le texte nous dit que après cet épisode, beaucoup crurent en Jésus. Donc l'épisode avait deux buts. Premièrement, Jésus voulait montrer à la foule qu'il est réellement la résurrection et la vie, que celui qui croit en lui ne mourra point même si il meurt. Et puis deuxièmement, Jésus voulait leur donner une occasion de voir qu'il était réellement le Fils de Dieu. Derrière nos fardeaux, Dieu a un plan. Et c'est parfois un plan auquel nous ne comprenons absolument rien. Ça nous dépasse complètement. Nous ne savons même pas exactement quel est ce plan, mais Dieu, lui, qui voit dans l'éternité, sait ce qu'il va faire. Combien de gens ne peuvent pas témoigner de dire, par exemple, « Moi, j'avais un enfant, oh là là, c'était terrible, il ne voulait pas entendre parler de Dieu, je devais me casser la tête contre le mur et les prières ne marchaient pas. » Et puis après des années, des années, des années, un enfant qui se convertit et qui devient un témoignage à la gloire de Dieu. Combien de gens ne peuvent pas parler de situations où ils avaient des fardeaux comme ça, qui ont été des occasions pour eux de voir la gloire de Dieu. Dieu nous parle au travers de nos fardeaux. Dieu veut manifester sa gloire. Alors ce qui n'est pas facile, c'est que nous ne savons pas ce que Dieu va faire. Nous ne savons pas, parce que nous nous sommes pris dans la situation actuelle. Mais Dieu connaît son chemin et il sait ce qu'il veut tracer au travers de nos vies, il sait ce qu'il veut réaliser pour nous au travers de nous. Enfin, dans ce texte, une chose qui est très marquante, ça ne vous aura pas échappé, bien sûr, c'est que dans Jean 21, on voit que après qu'ils aient pris tous ces poissons, ils reviennent à terre et ils trouvent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Et Jésus leur dit, apportez des poissons que vous venez de prendre. Alors quand on lit cela, quand on lit ce texte, c'est compliqué de ne pas penser au petit plat préparé pour ceux que l'on aime. Ils sont là, ils sont pris dans leur truc de prendre des poissons, ils ont travaillé toute la nuit, ils arrivent sur terre et ils trouvent du pain sur un feu et puis déjà des poissons qui sont prêts à les accueillir. On dirait que c'est vraiment le petit repas préparé pour leur faire du bien, pour leur donner un moment de répit, un moment de détente. Alors il y a toute une discussion sur ce repas, parce que dans la théologie, certains ont dit oui, ce sont les anges qui sont venus apporter le pain, certains ont dit Jésus a fait un miracle, on n'en sait rien. Ce qu'on sait, c'est que quand ils sont sortis, ils avaient déjà le feu qui était prêt pour eux. C'était un moment doux, c'est tellement agréable. Ils arrivent là et ils voient Jésus qui leur dit « Venez vous asseoir. Allez, venez vous asseoir et venez manger. Venez vous asseoir et venez partager un moment avec moi. Venez près de moi, venez vous asseoir. » Jésus veut leur donner du repos par rapport à leur situation, par rapport à tout ce qu'ils ont vécu. Jésus veut leur donner un moment de repos, un moment de détente. Et au milieu de tous nos fardeaux passés, de nos fardeaux présents, de nos fardeaux futurs, Dieu veut nous donner du repos. Et il veut que nous puissions avoir des temps pour souffler, des temps pour être dans la paix de sa présence. Et Christ veut nous donner ce repos. On voit dans la Bible qu'il est écrit que Dieu couronne notre vie de tendresse et de bonté. Dieu entoure notre vie de tendresse et de bonté. Il veut nous entourer de sa tendresse malgré nos fardeaux, malgré tout ce que nous aurons à vivre. Et on sait qu'après, les disciples vont avoir plein de choses compliquées encore. Mais il apparaît pour avoir un moment de communion avec eux. Jésus veut donner de la paix dans notre cœur alors que nous souffrons. Jésus veut aussi nous donner du repos lorsque nous voyons certains de nos fardeaux s'envoler. Parfois, c'est un geste de Dieu envers nous. Il veut nous donner du repos, nous voyons tel fardeau, ben c'est fini. Merci Seigneur, ça c'est réglé. Dieu nous donne du repos. Ça peut être lorsque nous recevons des signaux d'encouragement malgré que tout va mal. Tout va mal. Mais Dieu nous donne des choses qui nous encouragent. Ah, une bonne nouvelle. Ah, un truc positif. Dieu nous donne du repos. Parfois, évidemment, lorsqu'il y a des gens autour de nous qui nous entourent et qui nous font du bien, c'est une façon pour Dieu de nous donner du repos. Jésus nous donne du repos aussi en agissant dans nos cœurs. Parce que le problème de nos fardeaux, c'est que très souvent nos fardeaux peuvent devenir des choses qui alourdissent notre vie, qui nous font mal, qui nous mettent en difficulté, qui deviennent lourdes à porter. Et une façon de nous donner du repos pour Dieu, c'est parfois de nous alléger d'un fardeau dans notre cœur. Hein, vous voyez, par exemple, vous, ça ne vous arrive pas, mais prenons nous autres. Quand vous avez de la rancune envers quelqu'un, ben, on est, ça reste et ça alourdit. Et puis, à un moment donné, ben, voilà, la situation s'arrange, on peut s'expliquer, on peut passer à autre chose. Et on sent, ah, ça va mieux. Quand on souffre de quelque chose qui nous a fait mal dans le passé, d'un décès, d'une maladie, d'une situation qui nous a fait mal, ben Dieu parfois nous donne du repos pour que nous puissions, ah, ben ça va mieux. Dieu m'a consolé, Dieu m'a fait du bien. Nous pouvons avoir des fardeaux, mais soyons certains que Dieu veut nous donner du repos. Il veut que nous puissions souffler et jouir de sa paix. Alors, le repos, évidemment, aujourd'hui, c'est à propos, puisque c'est le temps des vacances et beaucoup vont en profiter. Eh bien, si vous avez l'occasion d'avoir du repos, ne le prenez pas comme une évidence. Prenez-le comme un cadeau de Dieu, comme un don de Dieu. Dieu veut que nous puissions nous reposer, ça c'est un. Mais ce repas, c'est aussi un moment avec Jésus. C'est pas juste on va bien manger, on aura du poisson et des pains, c'est ils auront un moment avec Jésus. Dieu veut aussi nous inviter à la communion. C'est un repas pour communier avec Jésus. Jésus veut qu'au milieu de tout ce que nous pouvons vivre, de tous nos fardeaux, que nous puissions avoir des temps de communion avec lui, parce que c'est ça le vrai repos. Le vrai repos vient de l'occasion d'être en communion avec Jésus. Ils sont là, ils sont assis, ils sont en communion avec Jésus. Et quand on lit ce texte, on sent que Jésus veut cette communion. Et rappelez-vous que ce n'est pas la première fois qu'il arrive à un repas. Dans Luc 24, déjà, il apparaît dans un repas. Dieu veut s'approcher de nous, il veut communier avec nous. En fait, dans la Bible, le repas, c'est le symbole de la communion. C'est pour ça qu'on ne mange pas avec n'importe qui. C'est un symbole de communion. Quand on mange avec quelqu'un, on communie avec quelqu'un. Ils sont là et ils communient avec Jésus. Et c'est ce que Jésus veut, que nous puissions, par-dessus tout, quel que soit ce qui se passe, communier avec lui. Et on pourrait dire c'est la finalité des finalités de notre vie chrétienne, c'est la communion avec Dieu. C'est être en communion avec Dieu. Alors ce repas, comme vous le savez, il annonce la finalité des finalités, c'est les noces de l'agneau, le grand repas, où Dieu va communier avec tous ceux qui ont cru en lui, tous ceux qui se sont attachés à lui. Alors, malgré tous nos fardeaux, Dieu nous dit « Approche-toi de moi et sois en communion avec moi. » Par la prière, par les actions de grâce, par la louange, par la contemplation, viens discuter avec moi, viens m'écouter, viens être près de moi, viens me rencontrer. Dieu nous appelle à son repos et à sa communion. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Que nos fardeaux soient tous réglés ou pas, c'est ce qu'il y a de plus précieux, c'est de pouvoir avoir des moments où nous pouvons nous asseoir avec Jésus et alors bénéficier de ce que la Bible dit des mets succulents. Il y a des mets succulents dans notre relation avec Dieu. Il dresse devant nous une table où nous pouvons échanger avec lui et être en communion avec lui. C'est le plus beau des cadeaux. Le plus beau des cadeaux, c'est Jésus qui meurt pour nous. Mais si Jésus est juste mort pour moi et que je dis merci Seigneur, il manque quelque chose. Quand je continue, c'est il est mort pour moi, il m'a réconcilié avec Dieu, maintenant je veux communier avec Dieu, je veux être en relation avec Dieu. Je veux cultiver une relation avec ce Dieu qui m'a sauvé. Alors que Dieu, justement, nous aide à recevoir le repos par rapport à nos fardeaux et à pouvoir bénéficier pleinement de la communion avec lui. Amen.